et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, votre podcast hebdomadaire qui fait le point sur l'actualité à retenir pour les concours. Aujourd'hui, Margot revient sur les élections internes de la droite française. On s'envolera en Allemagne où Chloé va nous expliquer comment le pouvoir a failli être victime d'un coup d'État. Louise va nous expliquer comment Elon Musk souhaite contrôler le ciel. Et Bruno va nous expliquer que tout n'est pas rose dans le rugby français. Enfin, Paul va vous expliquer ses secrets pour rédiger un article. Mais tout de suite, place au traditionnel affluoté avec Apolline.
Un chiffre alarmant. Le ministère de l'Intérieur a recensé 28 000 victimes de violences conjugales en 2021. C'est 21% de plus qu'en 2020. Deux tiers de ces violences sont physiques et un peu moins d'un tiers sont psychologiques ou verbales. Autre chiffre préoccupant, dans les prisons françaises, deux tiers des détenus libérés ont des troubles psychiatriques. Une équipe du CHU de Lille a mené une enquête pendant 2 ans auprès de détenus proches de leur libération. Elle l'a présentée à l'occasion du Congrès français de la psychiatrie au début du mois de décembre. Souvent, ces troubles psychiatriques sont également liés à des problèmes d'addiction. C'est bientôt la fin du ticket de caisse. Pourquoi prendre une telle mesure? D'abord pour économiser du papier. En France, 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Ça correspond à 150 000 tonnes de papier. En plus, les tickets contiennent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Il devait disparaître en janvier, mais la date a été repoussée en avril. Dominique Strauss-Kahn est dans le viseur de la justice française. L'ancien président du Fonds monétaire international est mis en cause dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il a été convoqué et placé en garde à vue à la fin de l'été. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir bénéficié d'une exonération fiscale pendant 5 ans en étant domicilié au Maroc. On parle de 21 millions d'euros. Ces révélations font suite à l'affaire des Pandora Papers. L'année dernière, des millions de documents avaient fuité et ils avaient dévoilé des fraudes fiscales à grande échelle. Adrien Quatennens ne renonce pas à son statut de député. Il a été condamné mardi à 4 mois de prison avec sursis pour des violences envers son épouse. Il a été suspendu de la France Insoumise et pourtant, il prévoit de retourner à l'Assemblée dès le mois de janvier. Il y siégera donc en non-inscrit.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Nous sommes en guerre.
Mon ennemi, c'est la finance.
Écoutez, petit bonhomme.
Les adhérents des Républicains ont élu leur nouveau président ce dimanche 11 décembre. Margot, tu nous expliques en quoi cette élection était importante dans l'histoire du parti.
Le successeur de Christian Jacob s'appelle Éric Ciotti. Avec 53,7% des suffrages, le député des Alpes-Maritimes prend les rênes de la maison des Républicains. Lors du premier tour, le politique menait déjà d'une courte tête ses deux adversaires, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Élu avec 53,7% des voix, Éric Ciotti devint donc le nouveau président des Républicains. Une tâche difficile, puisqu'il doit maintenant donner au parti un nouveau souffle après l'échec de Valérie Pécresse aux dernières élections présidentielles, qui, pour rappel, n'avait même pas réussi à atteindre 5%.
Le problème, c'est que le nouveau président ne fait pas l'unanimité, c'est ça ?
Et oui, ce qui bloque, c'est la ligne politique d'Éric Ciotti, jugée trop à droite par les membres de son propre parti. Jeudi 1er décembre, dans une interview accordée à Ouest France, il déclarait « Mon triptyque, c'est l'autorité du policier et du gendarme, c'est l'identité, la France doit rester la France, c'est la libération de l'économie par une baisse massive des impôts et charges. » Au lendemain de sa victoire, plusieurs titres de presse tentent de qualifier la politique d'Éric Ciotti. Pour La Croix, les convictions du député flirtent avec celles de l'extrême droite. Pour le journal suisse Le Temps, le nouveau patron de la droite française est radicalisé. Et pour Courrier International, Ciotti, c'est la ligne dure de la droite française.
Et cette ligne très à droite pousse même au départ certains membres de son propre parti.
François Grosdidier, Laurence Arribagé, Patrick Nardin, ils sont plusieurs à prendre leurs jambes à leur cou depuis que les résultats ont été annoncés. Deux départs ont particulièrement marqué les troupes des Républicains. Après 41 ans de bons et loyaux services, François Grosdidier, le maire de Metz, est le premier à avoir claqué la porte du parti quelques heures seulement après l'annonce des résultats. Pour le moment, il ne s'est pas rallié à une autre force politique. Autre départ important, celui de Laurence Arribagé, présidente à l'ère de Haute-Garonne depuis 6 ans. Elle a déjà voulu rejoindre la direction d'Horizon de Toulouse, le parti fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
15 élus LR de Nice avaient d'ores et déjà annoncé leur départ une semaine avant le second tour. Anthony Boré, premier adjoint du maire de Nice, avait appelé à une clarification sur la position des Républicains vis-à-vis du Rassemblement national. Autre sujet dans l'actualité, Margot, tu nous dis que le gouvernement veut supprimer 1165 postes de professeurs pour la rentrée prochaine.
La rentrée 2023 se prépare déjà et le gouvernement annonce des suppressions de postes. Dans le détail, 667 postes de professeurs des écoles et 498 postes d'enseignants dans le second degré seront supprimés. Certaines académies vont être plus touchées que d'autres, comme Paris, Lille et la Normandie, qui sont les grandes perdantes. Le gouvernement a déjà annoncé que les postes d'enseignants seraient redistribués en fonction des besoins.
Et est-ce qu'on a des explications sur ces suppressions de postes ?
Oui, la baisse du nombre d'élèves est à l'origine de cette décision. Les écoles publiques devraient perdre 65 000 élèves à la rentrée 2023, sachant que l'année 2022-2023 avait déjà été marquée par une baisse conséquente. Les collèges et lycées devraient aussi connaître une baisse importante, avec 840 élèves de moins attendus.
Il s'était rapidement imposé comme une référence pendant la pandémie. Guillaume Rosier, le créateur de Covid Tracker, évite ma dose à un nouveau poste plus politique.
Oui, l'ingénieur en informatique de 26 ans que nous connaissons tous, grâce ou à cause des confinements, a visiblement convaincu l'Élysée. Selon nos confrères de Politico et du Monde, il devrait intégrer l'équipe de communication et stratégie de la présidence. Il occupera une fonction intitulée conseiller data pour travailler sur les méthodes de suivi des politiques publiques. Guillaume Rosier avait demandé à l'exécutif de rendre les données publiques concernant la campagne vaccinale. En juillet 2021, il avait été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite par Emmanuel Macron.
You are entitled to a beautiful new blue passport.
We did it, Joe.
God bless you all.
La semaine dernière, Amandine nous parlait d'un coup d'État raté au Pérou. Et aujourd'hui, Chloé, tu nous expliques qu'un projet de coup d'État aurait été planifié en Allemagne.
Eh oui, alors qu'au Pérou, le peuple tentait de renverser le président le 7 décembre, de l'autre côté du globe, en Allemagne, la police empêchait un coup d'État d'avoir lieu. Dans l'une des plus grandes opérations policières depuis des années, mobilisant plus de 3000 policiers, 25 personnes ont été arrêtées. Pendant une semaine, la police a enquêté et on en sait désormais un peu plus sur celles et ceux qui voulaient s'emparer du Parlement allemand.
L'attention des médias s'est concentrée sur trois personnalités. Un septuagénaire censé prendre la tête du gouvernement à l'issue du putsch, une magistrate berlinoise qui voulait le ministère de la Justice et un ancien commandant parachutiste chargé du volet militaire de l'opération. Mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le reste du groupe.
Les citoyens du Reich. Tous les membres sont issus de ce mouvement datant des années 80. Il serait 23 000 dans toute l'Allemagne, dont 10% de gens considérés comme potentiellement dangereux. En gros, ce mouvement ne reconnaît pas la République, prône le rétablissement de l'Empire, le Reich, et refuse d'obéir à la police ou encore de payer leurs impôts et leurs cotisations sociales. Et leur plan était clair, s'emparer de force du Parlement allemand, le Bundestag. Mais pas seulement. Les enquêteurs ont retrouvé une liste de 18 personnes ciblées par l'organisation. Dans cette liste, on retrouve les noms du chancelier Olaf Scholz et de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Et ce n'est pas la seule liste sur laquelle la police est tombée. Une liste d'élus et de médecins de région a aussi été retrouvée, ce qui prouve que le groupe ne prévoyait pas de s'arrêter aux personnalités publiques.
En plus des listes de noms, les enquêteurs ont saisi 93 armes. Le gouvernement allemand a entrepris des changements dans sa législation.
Premier changement, une loi pour pouvoir retirer plus rapidement du service public les ennemis de la Constitution. Concrètement, si demain un député appartient à un groupuscule d'extrême droite qui ne reconnaît pas la République, le Parlement pourrait le virer avec un décret au lieu d'attendre une procédure au tribunal. La ministre social-démocrate Nancy Faeser souhaite aussi durcir le port d'armes, mais ce dernier point est loin de séduire la majorité parlementaire. Affaire à suivre donc.
Tremblement de terre politique en Turquie, le seul rival de Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, a été condamné à presque 3 ans de prison et à l'inéligibilité.
Tout ira très bien. C'était le slogan d'İmamoğlu pendant les élections municipales de 2019. Il semblerait pourtant que le candidat se soit un peu planté. Membre du Parti républicain du peuple, l'homme politique est dans le viseur du régime d'Ankara depuis le 31 mars 2019, jour de sa victoire contre Erdogan dans la course pour la mairie d'Istanbul. Et comme si ça ne suffisait pas pour s'attirer les foudres du gouvernement, quelques mois plus tard, il déclare qu'aux yeux du monde, ceux qui ont annulé les élections du 31 mars sont des idiots. Ambiance. Résultat, une condamnation qui vient d'être prononcée de 2 ans et 7 mois de prison et une inéligibilité à effet immédiat pour insulte envers des hauts fonctionnaires de l'État. Dès l'annonce du verdict, plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans le froid sur le parvis de la grande mairie d'Istanbul.
Pour finir, on revient sur le rapport annuel de Reporters sans frontières et il n'annonce rien de bon, Chloé.
C'est un bien triste bilan, Louis. 533 journalistes sont emprisonnés dans le monde actuellement. C'est une quarantaine de plus que l'an dernier, alors que c'était déjà un record historique en 2021. À elle seule, la Chine emprisonne 110 journalistes, la Birmanie et l'Iran complètent le podium de la honte avec 62 et 47 journalistes emprisonnés. Autre point inédit que soulève le rapport de RSF, la hausse importante du nombre de femmes, on en compte 78 contre 60 l'an dernier. L'impact de la guerre en Ukraine est bien visible, 57 journalistes sont morts contre 48 en 2021. Ça fait beaucoup de chiffres, mais retenez surtout ce nombre de 533 journalistes emprisonnés, ça vous sera sûrement utile pour le concours.
Et ne confondez pas journalistes emprisonnés et journalistes en otage. On pense notamment au français Olivier Dubois, en otage au Mali depuis plus d'un an et demi.
Le blé, fais gaffe, un coup t'en as, un coup t'en as plus.
Elle est là la réalité de nos hôpitaux.
Moi je suis une star des maladies infectieuses.
Oh, gardez vos nerfs.
Mercredi, Twitter a suspendu des dizaines de comptes qui permettaient de suivre les jets privés de milliardaires, dont celui d'Elon Musk.
Ces comptes automatisés, appelés aussi bots, permettaient de suivre en temps réel les trajets de ces jets. Le compte Elon Jet cumulait plus de 500 000 abonnés. Cette action intervient alors que Musk avait promis de ne pas y toucher. Mon engagement envers la liberté d'expression s'étend même à ne pas interdire le compte suivant mon avion, tweetait-il il y a à peine un mois. Comme quoi la liberté d'expression, bah, c'est quand ça l'arrange.
Mais il a une bonne excuse, Louise. Ce compte porterait atteinte à sa sécurité et à celle de sa famille.
Il aurait en effet été victime de menaces, sans amener aucune preuve. C'est vrai que poster la position géographique de quelqu'un en temps réel peut lui porter préjudice. Elon Musk a également affirmé plus tard dans un tweet son intention de porter plainte contre Jake Sweeney, le créateur d'Elon Jet. Mais il semble avoir changé son fusil d'épaule parce qu'il y a à peine un mois, le patron de Twitter lui avait proposé 5000 euros pour supprimer ce compte.
Et cette décision intervient alors que le flight tracking, suivi d'avion en bon français, se démocratise de plus en plus.
C'est vrai que ces comptes sont de plus en plus populaires et c'est totalement légal car les déplacements sont retracés à partir de données publiques. Le flight tracking n'est pourtant pas un phénomène nouveau. En 2014, par exemple, quand un avion avait été abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile russe, une grande investigation avait été menée, notamment grâce à Flight Radar 24, un site de traçage. Mais aujourd'hui, il prend une nouvelle dimension. Il est utilisé pour dénoncer le bilan carbone catastrophique des grandes fortunes. Ici en France, vous n'avez pas pu passer à côté cet été du fameux compte Twitter « L'avion de Bernard » qui retraçait les déplacements de Bernard Arnault. Et il était temps de dénoncer le train de vie de nos milliardaires, parce que rappelons-le, le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française.
Le verdict est tombé pour le procès de l'attentat de Nice. Ce mardi 13 décembre, les 8 accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison.
Après plus de 3 mois de procès, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict. Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, deux des trois principaux accusés, ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes. Ils ont été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle, contre 12 ans pour Ramzi Arefa, le troisième. Le parquet national antiterroriste avait requis 15 ans de prison contre ces trois accusés. La cour d'assises a donc prononcé des peines plus importantes pour deux d'entre eux. Une bonne surprise pour les parties civiles. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert début septembre à Paris. 5 autres accusés y étaient jugés pour trafic d'armes.
Le travail au noir aurait fait perdre l'année dernière à la sécurité sociale au moins 6 milliards d'euros.
La Sécu n'encaisse pas tout ce qu'elle est en droit de recevoir en termes de cotisations sociales. Et c'est un problème car le manque à gagner est énorme. Selon le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, le travail dissimulé toucherait jusqu'à 2,5 millions de personnes.
Et le rapport souligne que la fraude est particulièrement prononcée chez les micro-entreprises.
Certains chauffeurs de taxi et acteurs du bâtiment sont concernés, mais ce sont surtout les travailleurs des sites de services qui sont dans le viseur, car on parle de 58% chez les livreurs à domicile et 62% pour les VTC. Concrètement, les responsables de ces plateformes internet fournissent des informations partielles ou erronées sur les personnes qu'elles emploient, voire omettent tout simplement de déclarer leurs revenus.
And the Oscar goes to...
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Quand on va agressif.
La chatte qui va, la chatte.
On commence avec le monde du rugby français qui est dans la tourmente après la condamnation de son président.
Bernard Laporte a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour, attention, il y a pas mal de raisons, corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt ou encore recel d'abus. Pour résumer brièvement l'affaire, Bernard Laporte aurait favorisé le groupe Altrad dans plusieurs décisions contre un chèque de 180 000 euros reçu en 2017. Attention, c'est pour une mission qu'il n'a jamais effectuée. Parmi les nombreux choix qui ont joué en la faveur d'Altrad grâce au président de la FFR, il y a le fait que l'entreprise devienne un des sponsors du 15 de France et soit visible sur leur maillot. Le patron du club de rugby de Montpellier, Moed Altrad, est quant à lui condamné à 18 mois de prison avec sursis.
J'imagine qu'une décision de justice pareille, ça fait forcément réagir le gouvernement.
Évidemment. Encore plus quand la Coupe du Monde se passe chez nous l'année prochaine, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a immédiatement réagi en disant que cette condamnation allait être un obstacle à la bonne réalisation de sa mission.
On rappelle que Claude Acher, qui était chargé d'organiser la Coupe du Monde 2023, a lui aussi des problèmes avec la justice.
Oui, décidément rien ne va pour le rugby français. Lui, il était à la tête du groupe d'intérêt public chargé de l'organisation de la Coupe du Monde et il a carrément été démis de ses fonctions. Une perquisition avait été menée dans leurs locaux. Acher est accusé de trafic d'influence, favoritisme, mais aussi d'avoir un management très toxique au sein du comité. De quoi aborder la Coupe du Monde avec Très peu de sérénité pour le 15 de France.
On continue avec Bastien Vivès qui se fait annuler son exposition au Festival d'Angoulême.
On en entendait beaucoup parler ces derniers jours et notamment sur Twitter. Celui que certains qualifient de petit génie français de la BD est attaqué de toutes parts. Il est accusé de promouvoir l'inceste et la pédocriminalité dans ses ouvrages. Bastien Vivès devait être présent à Angoulême avec une exposition début janvier dans les yeux de Bastien Vivès. Une pétition a récolté 100 000 signatures et s'opposait à sa venue, mais l'organisation du festival n'a pas bronché. Elle ne voulait pas connaître une défaite philosophique, selon l'un de ses directeurs.
Alors, qu'est-ce qui a fait craquer l'organisation du festival ?
Alors, c'est des intimidations et des menaces physiques, aussi bien à l'encontre de Bastien Vivès que contre les organisateurs du festival. Notons tout de même que l'organisation apporte son soutien à l'auteur dans son communiqué. Il laisse la justice trancher en ce qui concerne la légalité de ses œuvres.
Ceux qui ont tranché aussi, c'est le ministère de la Culture. Pendant les Jeux Olympiques 2024, on aura bien droit à d'autres événements majeurs, loin de Paris.
L'été 2024 ne se résumera pas qu'aux JO de Paris. Le Festival d'Avignon, des Vieilles Charrues ou l'Interceltique de Lorient auront bien lieu. Le monde de la culture et du spectacle était dans le doute après la déclaration de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il demandait à ce que les rendez-vous culturels de l'été 2024 soient annulés ou reportés, car les forces de l'ordre seront mobilisées à Paris pour les JO. Mais plus de peur que de mal, les événements pourront bien avoir lieu pour la plupart, s'ils ne tombent pas, bien sûr, pile pendant les Jeux.
Ça concerne les événements en région, mais j'imagine que ça pose beaucoup de problèmes pour ce qui se passe en Île-de-France.
Oui, clairement. On pense par exemple à des festivals comme Lollapalooza, qui se tient à l'Hippodrome de Longchamp à Paris, ou encore Rock en Seine, qui se tient, bah, comme son nom l'indique, le long de la Seine. Pour ces événements, ça s'annonce compliqué, mais le ministère est encore en recherche de solutions.
Affaire à suivre, donc.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
L'école que vous tentez vous demande d'écrire une enquête reportage et vous ne savez pas comment vous y prendre. Ne vous en faites pas, Paul va vous donner quelques pistes afin de construire votre article.
Tout à fait, Louis. Dans 3 minutes, l'enquête reportage n'aura plus de secret pour vous. Tout d'abord, il vous faut un angle. Rappelez-vous, Esteban en avait parlé dans l'épisode du 26 novembre. Il s'agit de la manière de traiter un sujet, l'axe dont on va parler. Il faut donc le réduire sur un espace géographique ou temporel. Par exemple, on vous demande de réaliser une enquête sur le thème du vêtement. Vous pouvez faire un sujet sur l'état du marché de la seconde main dans votre ville.
D'accord, et une fois que tu as ton sujet et ton angle, tu fais quoi ?
Alors, il vous faut des témoins, des gens qui vont essentiellement vous donner un ressenti sur votre sujet et ajouter de l'humain à votre article. Pour rester sur l'exemple de la seconde main, vous pouvez parler à des clients qui achètent régulièrement des vêtements vintage ou à des gérants de friperie. Pour aller à leur rencontre, il y a deux écoles, se rendre directement sur le terrain pour interroger les personnes sur le vif ou les contacter via les réseaux sociaux comme Twitter.
Mais tu nous parles des témoins, j'imagine que ça suffit pas.
Effectivement. En plus des témoins, il faudra que vous contactiez au moins un expert. Quelqu'un spécialisé dans le domaine de votre enquête. Ça peut être un psychologue, un économiste, un sociologue, un médecin, un professeur, bref. Une personne qui pourra vous livrer une analyse de la situation et expliquer un phénomène. Pour en trouver, Internet est votre ami. Pour celles et ceux qui ont déjà la chance de bosser dans un média, vous pouvez créer un compte sur le site lesexpertes.fr qui vous permettra de trouver facilement des expertes sur un sujet donné. Par exemple, pour le sujet des friperies, vous pourrez demander à une sociologue qu'est-ce qui attire dans l'achat de vêtements vintage ou à une économiste si ce modèle pourra survivre ou non à l'avenir.
Témoins et experts ou expertes, j'ai donc tout ce qu'il me faut.
Presque. Il ne manque plus que les chiffres qui vont apporter plus de concret à votre article. Pour ça, il va falloir rechercher sur le net. Je recommande entre autres les bases de données comme l'INSEE, les rapports annuels d'entreprises cotées en bourse ou les institutions internationales comme l'ONU. N'hésitez pas non plus à en demander aux experts que vous solliciterez. Ils pourront sûrement vous transférer ces données ou au moins vous orienter vers d'autres sources qui pourront vous aider.
Et une fois que j'ai tous ces éléments, je peux me mettre à l'écriture ?
Oui, enfin, laissez-moi juste vous donner quelques astuces sur l'organisation de votre papier. Mon petit conseil, c'est de commencer votre article avec un élément de reportage qui met dans l'ambiance. Ensuite, faites les 5 W, qui, quoi, où, quand, pourquoi, avant de terminer le premier paragraphe par la question que pose votre enquête. Développez ensuite votre problématique et répondez-y dans différentes sous-parties à l'aide des témoins et des experts que vous aurez interrogés avant de conclure par une réponse à la question posée au début de l'article. Dernière chose, n'hésitez pas à vous faire relire par une personne qui ne connaît pas le sujet, d'abord pour les fautes de français, mais surtout pour vérifier si votre article est compréhensible par quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà, vous savez tout. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Merci pour ces conseils, Paul, même s'il en faudra peut-être un peu plus pour atteindre le prix Albert Londres. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. D'ici là, bonne fête à tous et à toutes. N'hésitez pas à suivre ActuVu sur Instagram. Colline vous réserve quelques petites surprises pendant les vacances. Et merci à elle de s'être dévouée pour la technique.